Colossiens chapitre 3. Dieu s'adresse à nous par son apôtre dans ces termes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, littéralement vos membres qui sont sur la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous avez dépouillé la vieille nature, littéralement c'est le vieil homme avec ses pratiques, et revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a là, c'est-à-dire dans ce renouvellement, dans cette nouvelle création, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessous tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Deux versets de plus. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Nous avons vu dans nos dimanche précédent que l'église de Colosse était donc en danger, comme nous le sommes, parce que nous sommes tentés d'écouter des fausses voix qui parlent d'une religion humaine dans le nom de Christ, sous le nom du christianisme. Et même sans faux enseignants, nous-mêmes, notre cœur est un faux enseignant, très souvent. Nous avons des anciennes manières de penser et nous sommes enclins à adopter un style de vie que nous pensons être chrétien, mais qui ne l'est pas du tout en fait. Et ayant dit à ces chrétiens qu'il ne faut pas vivre une vie chrétienne selon la tradition humaine et les ressources humaines, les voies terrestres, mais selon Christ, l'apôtre va maintenant, à partir de ce chapitre, nous expliquer positivement, en fait, c'est quoi? Vivre selon Christ et pas selon des pensées humaines ou des méthodes humaines. Donc, nous allons essayer de voir trois choses. Je ne suis pas sûr d'arriver à les voir tous les trois aujourd'hui. Sinon, on s'arrêtera sur la partie qu'on arrive à faire. Une nouvelle manière de vivre, premièrement. Deuxièmement, une nouvelle identité et demeure. Et troisièmement, une nouvelle tâche. Donc, c'est très facile. Et arrêtons-nous pour penser un peu à cette nouvelle manière de vivre. Nous lisons dans le verset 1, si donc, et d'ailleurs aujourd'hui nous concentrons sur le verset 1 à 4 seulement. Je vais juste faire référence aux autres versets rapidement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous, si vous, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non pas aux choses sur la terre. Donc, avant d'entrer dans les détails de tout cela, la première chose qui doit nous frapper, c'est que la nouvelle manière de vivre que vous avez dès votre conversion est vraiment complètement différente de toute manière de vivre dans le monde, religieuse ou non religieuse. Par exemple, si vous empruntez une religion humaine, on va vous donner des idées, des principes, des doctrines, des pratiques et des méthodes. Voilà. Et on va vous dire, allez-y, partez sur ça. Mais nous n'avons pas ça ici. Nous avons une clé pour la vie chrétienne qui n'est pas une idée, ni une doctrine, ni un principe, mais un fait historique qui change tout. Votre situation, vos possibilités, vos potentialités, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Alors, c'est complètement différent. Toute votre vie chrétienne dépend de quelque chose qui s'est passé, qui a tout bouleversé. Dans le rapport de pouvoir entre toi, et de l'autre côté, le péché, Satan et ce monde. Nous le voyons donc dans ce verset 1, nous le voyons dans d'autres versets de Colossiens, je ne vais pas les lire pour le moment, mais il a déjà dit dans le chapitre 2 que nous sommes morts avec Christ. Et il dit même à un moment donné, pourquoi est-ce que vous suivez des règles comme si vous viviez encore dans le monde? C'est vraiment très frappant cela. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et je crains que beaucoup de chrétiens n'ont pas la même vision de ce que c'est que la vie chrétienne que Paul. Nous demandons même, qu'est-ce que tu veux dire? Je vis encore dans le monde. Qu'est-ce que tu veux dire que je ne vis plus dans le monde? Donc nous allons essayer de découvrir qui nous sommes réellement aujourd'hui. Donc, une clé qui n'est pas une doctrine, une idée, mais un fait historique. Deuxièmement, dans cette nouvelle manière de vivre, il y a une direction qui n'est pas moraliste, mais évangélique. Qu'est-ce que je veux dire? La direction moraliste de la vie, c'est celle-ci. Efforce-toi de devenir ce que tu devais être. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est vraiment l'appel chrétien. Efforce-toi de devenir ce que tu n'es pas, mais que tu devais être ou dois être. D'accord? Notre direction est complètement l'inverse. C'est vis pleinement maintenant la personne que tu es devenue en Christ. Non pas deviens quelque chose. Nous ne devons pas tenir une image là d'un but et dire il faut que j'y arrive. Paul est en train de nous dire ça c'est le monde, ça c'est le mondain. Il dit vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes là. Vous n'allez pas arriver là, vous êtes là à partir de là, de votre position en Christ. Laissez ça s'exprimer, fleurir, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes en lui. Alors là, ça nous embarque sur un style de vie complètement différent, sur une manière de penser lorsque nous affrontons des problèmes comme la colère ou la prière ou tout ce qui concerne notre vie chrétienne. Comment nous l'abordons à partir d'une position déjà là, ressuscitée avec Christ, plutôt que « il faut que j'y arrive ». Je voudrais vous donner une petite illustration. Elle n'est pas formidable, mais peut-être ça va vous concrétiser un peu, parce que c'est un peu abstrait ce que je vous dis. Alors, ce que je vais vous raconter est... pour la grande plupart, vrai. Ça concerne quelqu'un, ça s'est vraiment passé. Je change quelques détails. Elle s'appelle Magali. Elle est allée dans une ville et dans une région de son pays en tant que jeune adulte, loin de sa famille, qui est une famille formidable, une famille chrétienne, pieuse, pleine d'amour, de bonté, de droiture, d'intégrité. Mais elle est allée loin, en tant que jeune adulte, elle est tombée dans un milieu horrible. Alors, voilà comment commence l'alcool et l'alcoolisme chez Magali. Mais je vous dis... jusqu'à un point où elle devient pitoyable. La drogue, elle est violée, elle est en fait prise dans un engrenage d'immoralité, de drogue, d'alcool, et... C'est vraiment aller sur une pente périlleuse. Sa famille, loin d'elle, agonise pendant des années, essaie de la faire revenir dans leur région afin de maintenant lui donner un autre milieu, n'est-ce pas, d'autres influences, mais elle est sous l'emprise de l'alcool, elle est devenue une vraie alcoolique, et sous l'emprise de certains garçons, et de certaines pratiques, et d'un certain style de vie, où elle est exploitée, et la famille n'arrive pas à la convaincre de sortir de tout cela. Maintenant, voilà ma métaphore. Supposons que Magali essaie de sortir à partir de là où elle est. Cet endroit, ce milieu, cette emprise. Et moi, je parle du moralisme maintenant. Okay? Donc, elle dit, il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête de boire. Il faut que j'arrête de fréquenter ces garçons. Il faut que Et puis, elle essaie de se hisser elle-même par sa chemise. Alors, voilà que cela ne marche pas. Voilà ce que tu dois être, Magali. Vas-y, essaye. Change, deviens différent. Ça, c'est le moralisme. Maintenant, imaginons une autre scène. Elle arrive au bout du rouleau. La famille vient... conduit des heures et des heures et des heures, arrive dans sa région, la récupère, l'amène chez elle dans la famille, ou par la grâce du Seigneur, pendant quelques semaines, en voyant cet amour, cette vie chrétienne, cette joie et cette paix dans la famille et chez leurs amis et dans le milieu de l'église, elle se convertit. D'accord? Maintenant, elle a un changement d'adresse, un changement d'identité. Et à partir de cette nouvelle situation bien plus forte, où elle est sous l'emprise de bonnes influences, intérieurement et extérieurement, elle peut maintenant dire, parce qu'elle est tentée d'appeler au téléphone. Ça peut vous étonner, mais c'est comme ça. Elle est tentée d'appeler le garçon. Elle est tentée de boire, parce que le corps a toujours envie, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas en train de travailler à partir d'une position en bas, deviens ce que tu dois, mais elle est devenue autre chose, et à partir de cette autre chose qu'elle est, elle peut maintenant compter sur le Seigneur, puiser dans sa force, et puiser dans le milieu qu'elle lui donne pour changer. Alors, l'illustration n'est pas formidable, mais ça vous donne un peu la différence entre ce moralisme que nous sommes bien tentés d'emprunter dans notre vie chrétienne et le fait de s'asseoir dans notre position de ressusciter avec Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons essayer de comprendre. Ok, ça c'est pour le point numéro 1. 2. Une nouvelle identité et une nouvelle demeure. Comme Magali, nous avons déménagé. Vous avez tous déménagé. Vous viviez dans ce monde auparavant, mais vous n'y êtes plus. Regardez le chapitre 2 et le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Et si nous allons un peu plus loin dans le chapitre 3, verset 7, vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, dans, c'est les langues, cet état de demeure. Mais maintenant, vous êtes sorti de là. Vous n'y êtes plus. Ça nous semble bizarre de dire que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous ne vivons pas dans le monde. Mais c'est en fait la réalité invisible et spirituelle et réelle. Je veux donc essayer de vous expliquer ça, d'abord en posant quelques questions. Alors, si vous êtes mort à ce monde, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, parlons d'empire. Physiquement, je suis d'accord, vous êtes encore dans le monde et vous y vivez. Mais quand Paul dit vous êtes mort au monde et vous êtes ressuscité, il est en train de parler de votre rapport à un empire, à une domination, à une sphère d'influence. Maintenant, parlons d'empire. Alors, comment est-ce que les empires commencent dans le monde? Empire romain, empire grec, empire soviétique, empire. Je ne sais pas. Les empires commencent par un acte fondateur à un moment donné. Par cet acte fondateur, donc un maître prend une région, une partie du monde, un peuple, et il en devient maître. Et il met ce peuple sous son emprise. Et donc une fois que l'empire est vraiment établi, ça veut dire que tout le monde qui vit dans cette sphère, dans ce domaine, dans cet endroit, dans cet empire, toute son existence est soumise au pouvoir de ce maître. Par exemple, si tu vivais dans l'Union soviétique au moment où cet empire était fort, alors tu avais certaines libertés, mais pas d'autres, que tu voulais ou pas, parce que ton existence était gouvernée et déterminée par l'empire. Je vous donne un exemple bien meilleur. En ce moment, vous et moi, physiquement, nous vivons tous dans un empire. Alors, le maître s'appelle Monsieur Gravité. Et dans la planète Terre, il règne physiquement. Et ça veut dire que vous et moi, toutes les secondes de notre existence sur cette planète, notre existence, nos possibilités sont déterminées, gouvernées, limitées, délimitées par la gravité. Vous ne pouvez pas tout simplement quitter le sol et aller voler, ben, je voudrais bien. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas faire un smash en basket, parce que moi, je ne peux pas quitter le sol assez. La gravité ne me le laisse pas. Je suis sous son emprise. Ok. Et vous savez que quand vous êtes sous l'emprise d'un pouvoir ou d'un empire, la seule manière d'en échapper, c'est de quitter cet endroit, de quitter cet empire. Par exemple, si je pouvais prendre un vaisseau spatial et quitter l'atmosphère de la Terre, Monsieur Gravité n'aurait aucune emprise sur moi. Mais tant que je suis dans son empire, je suis gouverné par sa puissance. Et lorsque Paul parle du fait que vous êtes mort au monde, il ne veut pas dire que vous avez physiquement quitté le monde, il veut dire que les pouvoirs qui régissent et gouvernent la race humaine déchue, c'est un empire ici-bas. La Bible appelle ça le monde. Le monde. Et Paul dit que vous n'êtes plus, vous avez été enlevé de cet empire et vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus sous l'emprise du péché, de Satan, des principes élémentaires de ce monde. Vous êtes sur le plan spirituel, vous êtes déjà ressuscité et vous êtes sous le gouvernement du Christ ressuscité, sa puissance et son influence. C'est comme Magali et sa nouvelle demeure, sa nouvelle identité. Le baptême nous donne une image de cela. C'est pour cela que dans le chapitre 2, Paul en parle. Au verset 12, il dit ceci. Il dit: Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Alors, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est la visualisation d'une mort et d'une résurrection. Enseveli avec lui dans le baptême, vous êtes ressuscité quand vous revenez de l'eau. Mais nous ne comprenons pas le baptême assez si nous ne le lions pas à cette question d'empire ou de domination. Parce que dans la Bible, les eaux sont le point de démarcation entre deux empires. Par exemple, les eaux de la mer Rouge. Quand on traverse ces eaux de la mer Rouge, le peuple d'Israël, il quitte un empire qui s'appelle Égypte, en esclavage, et ils entrent dans un nouvel empire où ils deviennent le peuple de Dieu, dont Dieu est le maître et le Seigneur. D'accord? Donc le baptême, quand vous êtes fait baptiser, vous avez témoigné que le monde n'a plus d'emprise sur moi, le péché n'a plus d'emprise sur moi, le péché est présent en moi, mais il n'est plus président en moi. Vous voyez la différence? Il y a un bouleversement, le rapport de force a changé. Christ en moi est président, je suis ressuscité en lui. Et donc, c'est à partir de cette nouvelle réalité que je dois compter, m'appuyer sur lui, afin de vivre la vie chrétienne. Donc, mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Paul dit que nous sommes ressuscités et que nous devons nous occuper, des choses en haut. Et il dit ailleurs que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, mais pas nous. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Et il dit ceci, je vous donne quelques exemples de cette position du ressuscité. À un moment donné, il dit, si nous marchons dans la chair, je suis d'accord, vous êtes ici bas dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. D'accord? Notre position est complètement changée. Ça veut dire que nos ressources spirituelles pour vivre la vie chrétienne, ce n'est pas simplement notre volonté. Il faut que j'essaye, je lise la Bible, que j'essaye de mieux faire. Je demande de l'aide. Mais il faut que je croie d'abord que je suis la personne que je dois devenir. C'est bizarre de dire comme ça. Je suis déjà la personne que je dois devenir. Et la vie chrétienne, c'est de tâcher de concrétiser, de manifester, de laisser fleurir la personne ressuscitée en union avec Christ que je suis. Et de ne plus croire que je suis l'ancien homme. Et c'est là tout le problème. Moi, je peux vous dire que vous avez ces ressources spirituelles d'un monde céleste, d'un monde spirituel du Christ ressuscité, mais votre problème et le mien, c'est que parfois on ne sent pas comme ça, n'est-ce pas? On est tenté et cette tentation est tellement forte que me dire je suis mort au péché, ça me semble impossible et illogique. Et en ce moment, nous sommes comme le pilote qui, vous savez que quand on forme les pilotes d'avion, on leur dit que vous devez toujours vous fier au tableau de bord. Il arrive à un pilote d'avion, parfois, on me dit, dans ces petits avions, d'arriver dans un nuage très, très dense et de se retourner sans s'en rendre compte. Alors, lui, il pense qu'il est à l'endroit, mais en fait, il est à l'envers. Et s'il se fie à ce qu'il ressent, il va s'écraser, n'est-ce pas? Donc, il doit se fier à ce que le tableau de bord lui dit. Il dit, oh, donc je dois me retourner complètement. Je ne veux pas faire ça. J'ai l'impression que je fais une bêtise. Mais quand il obéit au tableau de bord, il est dans la réalité. Et la Bible nous dit en Romains 6, 11, considérez-vous, comptez-vous, c'est un mot de comptabilité, comptez-vous comme mort au péché et comme vivant à Dieu. Et ça veut dire que je le ressens ou pas, je compte sur la réalité parce que c'est réel. Nous sommes parfois comme cet aiglon, aiglette, qui est tombé parmi les dindons très jeunes, et en grandissant avec les dindons, pensait qu'elle était dindon. Quelle vie misérable j'ai! Cette vie de dindon! Oh, si seulement je pouvais voler comme ces autres oiseaux, mais je ne suis qu'un pauvre dindon. Quel est le problème? Le problème de ne pas savoir qui vous êtes réellement. Et ça peut nous arriver comme chrétiens. Donc Paul est en train de nous dire, vous êtes ressuscité avec le Christ, vous n'êtes plus sous la coupe du monde, vous n'êtes plus la personne que vous étiez, vous êtes comme Magali, vous avez déménagé, vous êtes une personne différente, vous êtes en union avec le Christ et vous devez à partir de là vivre à partir de cette force. Un jour, quelqu'un, Augustin, avant de se convertir, saint Augustin avait une vie dissolue. Il avait des maîtresses, il avait même eu un enfant en dehors du mariage. Et quelque temps après sa conversion, je vous ai peut-être raconté cette histoire, mais une de ses maîtresses, soudainement, est là, dans la rue, en face de lui. Et elle dit, « Augustin, c'est moi !» Et il répond, oui, mais ce n'est pas moi. Et donc, il est en train de faire ce que Paul dit. Il est en train de compter sur le fait qu'il est maintenant une autre personne. Il est en Christ. Il est ressuscité. Il veut les choses d'en haut, dans son tréfonds, et pas les choses qu'il voulait avant. Alors, donc, le dernier point, ça c'est notre nouvelle identité, notre nouvelle demeure et notre nouvelle tâche. Nous lisons dans le verset 2, j'aurais dû commencer au milieu du verset 1, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut. Alors, très rapidement, nous devons identifier quelles sont les choses d'en haut et quelles sont les choses d'en bas. Parce que vous avez là une double commande de chercher, et ça veut dire Attache ton cœur, ton désir. Cherchez les choses d'en haut, non pas pour les posséder, vous les possédez, mais pour les vivre plus pleinement. Cherchez, aspirez, attachez ton cœur à ces choses. Et deuxièmement, pensez. Le mot signifie fixer ta pensée sur les choses d'en haut. Mais nous devons savoir qui elles sont, ces choses d'en haut. Si nous regardons plus tard, plus loin dans le verset, nous voyons ceci. Verset 5. Je vais remonter peut-être jusqu'au verset 2. Pensez à ce qui est en haut, non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 5. Faites donc mourir, et je cite littéralement, vos membres sur la terre. Alors, il est littéralement, c'est pas votre nature terrestre. Il dit, faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Il est en train d'identifier quelles sont les choses sur la terre que vous ne devez pas chercher ou penser. Alors, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, etc. Donc ce sont des vices. Des vices, les choses d'en bas sont des vices dans lesquels nous vivions. Il les appelle des membres parce qu'il y en a beaucoup, et pour avoir tout le portrait du vieil homme, il faut parler de tous ses membres. Calomnie, colère, ok? Donc il est en train d'utiliser une image. Et ensuite, il va nous identifier les choses d'en haut. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint, bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ainsi de suite. Ce sont des vertus moraux. Alors, Paul est en train de nous dire que les choses d'en haut, c'est pas le fait d'essayer d'imaginer à quoi ressemble le ciel. Pensez aux choses d'en haut. Peut-être il y a un peu de ça dans ce que Paul veut dire, d'accord? Nous devons penser à la gloire à venir, c'est certainement vrai, ok? Mais lorsque il nous dit ce que nous devons revêtir, ce que nous devons laisser de côté, il parle de choses morales. Pourquoi? Simplement parce que quand nous allons arriver dans la vie éternelle, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un monde où règne la bonté, la patience, l'amour, la compassion. Il est en train de dire les choses d'en haut, pour vous maintenant, c'est le caractère, c'est la langue qu'on va parler dans ce monde-là. Si vous allez dans un autre pays, vous voulez apprendre la langue avant d'aller. Parce qu'une fois que vous êtes là, c'est ça la réalité. Et donc, il est en train de dire, cherchez les choses d'en haut. Cherchez à vous revêtir d'un caractère céleste déjà. Devenez céleste. Parce que c'est là que vous êtes déjà en partie et que vous serez pleinement à jour. Il dit, en fait, tout ce qui est de ce monde, les vices qu'il a nommés, il dit ceci, je cite plutôt Jean et puis je vais essayer de finir maintenant. Jean dit ceci dans sa première épître, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ah, on a la même phrase, les choses d'en bas, les choses dans le monde. Mais quelles sont-elles? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, vous êtes des ressuscités. Vous avez déménagé, comme Magali. Vous êtes déjà en union avec le monde à venir qui est éternel, et vous allez y demeurer un jour pleinement et éternellement. Et ce monde, avec ses vices, avec sa colère et sa sensualité, les convoitises de ce monde passent. Pourquoi est-ce que vous allez vous attacher à ça, aux choses de ce monde? Il y a des choses légitimes dans ce monde, mais même celles-là, vous ne devez pas fixer votre cœur là-dessus. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une obsession avec la jeunesse. Les gens fixent leur attention et leur argent et leurs efforts sur un effort de se garder éternellement jeune. Avec des opérations, avec ce sont des choses d'en bas. Ça passe. Si c'est votre obsession, votre préoccupation, vous n'êtes pas en train d'agir comme un ressuscité. Votre monde est ailleurs. Il y a une obsession avec la santé physique. Il y a des gens qui veulent vivre physiquement aussi longtemps que possible. Et allonger, comme si c'est la seule vie qu'il y a. D'accord, si les gens, certains non-chrétiens, pensent qu'il n'y a pas d'autre vie, c'est logique pour eux. Mais pour vous, non. Si les choses que je peux manger ou prendre ou faire pour être en parfaite santé, vivre plus longtemps, si c'est ma passion. Je suis maintenant quelqu'un qui vit en bas. Je m'occupe des choses de la terre. Il y a une place légitime pour ces choses. Moi, je ne veux pas mourir à 60 ans. Ça me donne seulement un an et demi. Donc, ne me prenez pas, ne mettez pas une caricature sur ce que je dis. C'est toute une question de priorité. Le pèlerin, quand il marche, il est bien content pour des conforts sur le chemin. Il ne les maîtrise pas. Mais il ne s'arrête pas pour ça, parce qu'il veut arriver ailleurs. Et de même, je suis bien content pour tout ce que je peux faire, le sport et certaines choses pour ma bonne santé, ou des distractions que je peux avoir dans ce vie, des jeux, on peut en avoir, mais c'est toute une question de priorité. Où est-ce que je fixe mon cœur? Est-ce que je suis un homme ou une femme d'en bas, ou un homme et une femme ou une femme d'en haut? Paul dit dans le dernier verset que nous avons, « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Car juste avant, il avait dit, « Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous avez déménagé comme Magali et vous êtes une nouvelle personne en Christ, vous êtes ressuscité, c'est seulement partiellement que vous vivez ça pour le moment. Ce que vous êtes vraiment est en grande partie caché, en tout cas caché au monde. Parce que quand on vous voit dans la rue, on ne sait pas que vous êtes une personne céleste. Alors que c'est vrai, c'est incroyable. Vous êtes en contact avec un autre monde spirituel et puissant, et vous marchez dans la rue et les gens n'ont aucune idée. C'est caché. Votre vie est cachée en Christ. Et même pour vous, cela vous est caché. Vous ne savez pas la millième partie de ce que vous êtes vraiment en Christ. C.S. Lewis a dit que si nous voyons aujourd'hui même une personne humaine, un croyant glorifié, nous aurions envie de nous abaisser pour l'adorer. Tellement cette personne est glorieuse. Je crois qu'il a raison parce que la Bible dit que nous allons juger même les anges. N'est-ce pas? Alors voilà votre destin, votre appel. Comment pouvons-nous passer toute une vie et faire tourner cette vie autour d'un petit passe-temps, obsédé, préoccupé par quelque chose qui va passer? Il est temps pour chacun de nous de dire non, quel que soit le passe-temps, quelle que soit la chose, gardons-le dans sa mesure, gardons-le dans sa vie, que ça te fasse du bien. Mais ne mettez pas ton cœur. Mettez ton cœur dans la recherche des choses d'en haut. Parce que c'est là que vous êtes. C'est qui vous êtes. Nous allons chanter.